c'est ce qui a fait l'actualité francophone cette semaine. Bienvenue dans l'accent des autres. Les médias francophones publics vous accueillent comme chaque fin de semaine. France Inter, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada et la RTBF. Tout d'abord en France, Eric Delvaux, cette attaque dans une mosquée de la ville de Bayonne.
Oui, un homme a tenté de mettre le feu à la mosquée. Il a également tiré sur plusieurs personnes avec son pistolet. Deux personnes ont été blessées.
11 personnes sous enquête en Suisse pour violation de la loi antiterroriste, Pierre Anchoffard.
Parmi eux, un djihadiste rentré au pays, ce qui repose la question de la déradicalisation.
C'est une première dans l'histoire politique belge. Aline Jacobs, une femme prend la tête du gouvernement fédéral.
Sophie Wilmès, 44 ans, libérale, succède à Charles Michel en partance pour l'Europe. Une première ministre belge, c'est historique, mais il faut nuancer, elle occupe ce poste de façon temporaire.
Le gouvernement du Québec, quant à lui, poursuit sa réforme de l'immigration. René Saint-Louis.
Après avoir modifié les critères d'admission, le gouvernement impose cette fois un test des valeurs aux candidats à l'immigration.
Enfin, au Cameroun, c'est l'émotion après un glissement de terrain qui a fait plus de 40 morts, Clémentine Pavlotsky.
Oui, des dizaines de familles décimées, enterrées vives en pleine nuit à Bafoussam, mais des rescapés profondément choqués, certains ont absolument tout perdu.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
En France, Eric Delvaux, les enquêteurs tentent de déterminer l'état psychologique de l'auteur de l'attaque contre la mosquée de Bayonne.
Oui, qu'est-ce qui a poussé cet homme de 84 ans, retraité de l'éducation nationale, ancien candidat du Front National à des élections locales, à venir ainsi incendier la porte de cette mosquée avant d'ouvrir le feu avec son pistolet? Deux personnes donc ont été blessées par balle. D'après ses premières explications, assez confuses d'ailleurs, l'homme voulait ainsi venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en avril dernier. Il faut préciser que plusieurs sites ou élus avaient attribué cet incendie à la communauté musulmane, une thèse que rien ne permet d'étayer aujourd'hui encore. L'agresseur a également tenté de mettre le feu à la voiture à l'intérieur de laquelle un témoin était venu se réfugier. L'octogénaire a été mis en examen pour tentative d'assassinat, destruction aggravée et violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Et il y a débat en France, Eric, pour requalifier cette attaque en acte bel et bien terroriste.
Oui, car c'est bien une attaque terroriste, insiste l'avocat des victimes qui souhaite voir l'enquête confiée au parquet national antiterroriste. En fait, selon le code pénal français, est qualifié comme terroriste un acte qui a pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État. Il faudrait donc encore déterminer le réel projet politique de l'agresseur. Sauf que pour l'instant, ses motivations donc restent assez floues. C'est ce qu'estime le parquet de Bayonne pour qui le tireur souffre d'une altération partielle de son discernement, un point de vue que conteste donc l'avocat des victimes en rappelant que l'agresseur est un islamophobe reconnu auprès de son entourage. Il insiste aussi sur les repérages qu'il a réalisés autour de la mosquée. Il y a bien eu un ciblage et donc une conscience parfaite des actes qu'il a commis. De quoi donc requalifier cet acte en attaque terroriste.
Merci Eric Delvaux. À ce propos, Clémentine Pavlotsky, au Mali, la menace terroriste touche particulièrement les enseignants.
Oui, 6 d'entre eux ont été libérés lundi, quelques jours après avoir été enlevés. Ce cas n'est malheureusement pas isolé. Le syndicat malien de l'éducation a d'ailleurs organisé une journée de solidarité jeudi pour rendre hommage à ses professeurs et attirer l'attention sur des conditions de travail de plus en plus difficiles.
Les autorités suisses ont procédé cette semaine à une vaste opération antiterroriste, Pierre Anchoffard.
Oui, une centaine de policiers sont intervenus dans 3 cantons différents. 11 personnes, dont 5 mineurs, sont soupçonnées de violation de la loi interdisant les groupes terroristes. Le ministère public de la Confédération l'a toutefois précisé. Rien n'indique jusqu'à présent qu'une action concrète était prévue en Suisse.
Oui, on ne peut donc pas parler d'attentat déjoué.
Non, les autorités restent évasives dans leur communiqué. Les investigations en cours doivent clarifier le rôle et les intentions des 11 prévenus, on n'en saura pas plus.
Et que sait-on des suspects ?
Eh bien, en tout cas, que l'un des adultes placés en détention préventive est un voyageur du djihad. La justice l'a condamné à la prison avec sursis à son retour en Suisse. Cette nouvelle enquête le montre. Il reste complexe de réintégrer ce genre de profil. Délégué du réseau national de sécurité, André Duvillard ne veut plus parler de déradicalisation.
Dès le moment où une personne entre dans le processus pénal, l'objectif filet, de déjà travailler sur sa réintégration. Faire en sorte que cette personne-là renonce à des actes extrémistes violents. Et ça reste quelque chose d'extrêmement complexe, où on doit admettre qu'on n'a jamais 100% de chances de succès.
Et ce chiffre dont il faut se souvenir, sur les 92 djihadistes partis dans les zones de conflit, 16 sont revenus en Suisse déjà, et 31 sont décédés sur place.
Merci Pierre-Henri. Et à ce propos, la France a lancé un programme de déradicalisation il y a 3 ans. Avec quel succès, Eric Delvaux ?
Oui, eh bien, c'est un bilan assez mitigé en France. L'administration pénitentiaire tente bien l'impossible, mais très souvent, les détenus radicalisés ne veulent pas entendre parler de ces différents programmes pour lutter contre l'islam radical. La plupart d'entre eux ne sont d'ailleurs pas volontaires. Une remarque tout de même qui est ressortie des bilans d'étape sur la déradicalisation en France. Les djihadistes qui rentrent de Syrie vers la France ont souvent plus d'écoute sur la déradicalisation que les délinquants de droit commun, plus malléables et qui se sont parfois radicalisés en prison.
L'émoi et la désolation à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Tout un quartier de la ville a disparu dans la nuit de lundi à mardi, englouti dans un glissement de terrain meurtrier. Plus de 40 personnes y ont perdu la vie. Et depuis, les réactions se multiplient au Cameroun et sur les réseaux sociaux, Clémentine Pavlotsky.
Effectivement, depuis une semaine, les hashtags « Je suis Bafoussam » se multiplient. Il faut dire que la situation est particulièrement critique. Certains habitants ont absolument tout perdu, leurs parents, leurs enfants, leurs voisins et leurs maisons. Écoutez le désespoir de ce rescapé.
C'est difficile parce que les gens pleuraient de partout. Je me suis avancé tout doucement, les gens criaient, et c'est où j'ai constaté que la terre s'était effondrée avec toutes les maisons et tous ceux qui y habitaient. C'est horrible. Seigneur.
Ce qui a provoqué le drame, ce sont des pluies abondantes qui ont entraîné un glissement de la colline, glissement très certainement favorisé par les constructions anarchiques d'habitation. Depuis, les opérations de secours ont permis d'extraire plus d'une quarantaine de corps des décombres, mais selon les riverains, plusieurs personnes manquent toujours à l'appel.
L'accent des autres.
Une femme accède à la fonction politique suprême au fédéral en Belgique. Sophie Wilmès devient la première ministre du pays. Aline Jacobs, qui est donc cette femme qui remplace Charles Michel, parti pour devenir président du Conseil européen ?
Eh bien, Sophie Wilmès est libérale, multilingue et est entrée en politique au niveau local dans les années 2000. Elle est ensuite devenue députée fédérale, puis ministre fédérale du budget il y a 4 ans, jusqu'à cette nomination au poste de première ministre. Alors ici en Belgique, certains journalistes et politiques soulignent sa rigueur, son travail et son sens du compromis.
C'est historique, mais paradoxalement, Sophie Wilmès espère ne pas rester trop longtemps à ce poste.
Oui, Sophie Wilmès prend les rênes d'un gouvernement temporaire sans majorité au Parlement. Il faut savoir que depuis les élections il y a 6 mois en Belgique, on n'a toujours pas de nouveau gouvernement fédéral de plein exercice. Les discussions sont en cours. Sophie Wilmès est donc là pour assurer l'intérim suite au départ de Charles Michel. Elle va gérer les affaires courantes mais sans une grande marge de manœuvre.
C'est une situation qui n'a pas pour objectif de perdurer. J'appelle encore à ce qu'on forme rapidement un gouvernement parce que ce n'est qu'un gouvernement en plein exercice qui pourra prendre les mesures nécessaires, non seulement la trajectoire budgétaire, mais aussi au soutien à l'économie, ce dont notre pays a grandement besoin.
Mais les négociations en Belgique au fédéral peuvent prendre du temps. Il y a 8 ans, il a fallu 541 jours pour accoucher d'une majorité. L'intérim de Sophie Wilmès pourrait donc durer un certain temps, surtout vu l'avancement actuel des discussions entre les partis politiques.
Aline Jacobs à Bruxelles. Et puis à propos de femmes en politique, Pierre Anchoffat, en Suisse, la question femme reste d'actualité après les élections fédérales du 20 octobre.
Oui, je vous le disais la semaine dernière, elles ont passé d'un coup de 32 à 42% des députés à la Chambre du Peuple, un bond historique. Ce sera moins spectaculaire à la Chambre des cantons. Dans ce scrutin majoritaire, une petite moitié des sièges reste à attribuer au second tour. Mais on sait déjà que les femmes dépasseront au moins un peu le maigre 15% de la dernière législature. Premier affrontement ce dimanche en Valais, un homme socialiste mais féministe défie, mais oui, une femme démocrate chrétienne.
Pour immigrer au Québec, il faudra désormais passer un test de connaissance sur les valeurs démocratiques de la belle province, René Saint-Louis.
Oui, plus d'un an après son accession au pouvoir, le gouvernement du Premier ministre François Legault remplit ainsi une de ses promesses électorales, celle d'imposer un test des valeurs aux immigrants. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un examen que devront réussir tous les candidats à l'immigration qui souhaitent obtenir un certificat de sélection du Québec. Ce certificat est obligatoire pour ensuite pouvoir obtenir la résidence permanente au Canada. Alors, l'examen sera imposé dès le 1er janvier. Il y aura une vingtaine de questions portant sur la Charte québécoise des droits et libertés, sur le régime politique du Québec et sur l'importance du français comme langue officielle. On peut écouter le premier ministre du Québec, François Legault.
Si vous voulez venir vivre au Québec, il faut que vous connaissiez les valeurs au Québec. Il faut que vous sachiez qu'au Québec, les femmes sont égales aux hommes, que le principe de la laïcité est important, qu'il y a une séparation entre l'État et la religion. Donc, c'est important que ça se fasse rapidement.
Et qu'arrivera-t-il, René, si un candidat à l'immigration échoue à l'examen?
Mais les candidats pourront reprendre l'examen deux fois en cas d'échec multiple. Ils pourront même suivre une formation de 24 heures après laquelle ils seront réputés avoir réussi cet examen. Alors, le risque d'échec est pour ainsi dire nul, ce qui fait dire aux critiques du gouvernement que ce test est en fait sans conséquences réelles. La seule conséquence pour le gouvernement est en fait celle de remplir une promesse électorale et de bien paraître auprès de son électorat.
René Saint-Louis à Montréal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine. C'était l'accent des autres avec les médias francophones publics, France Inter, la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada et la RTBF. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.